pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une grande joie pour moi d'être devant vous pour lire et méditer la parole de Dieu, et non pas ce que je vais vous dire, mais la parole du Seigneur. Alors, pour ceux qui étaient là en décembre, parce que je ne le fais qu'une fois par mois, j'avais prêché sur le ministère de Jean-Baptiste. Et je pense beaucoup d'entre vous connaissent Jean-Baptiste. Il était venu parler et prêcher aux Juifs un ministère de repentance en se faisant baptiser dans l'eau pour ne plus pécher. Et pour nous, ça nous parlait qu'il fallait aplanir les sentiers de nos vies tortueuses pour nous préparer à la venue de Jésus. Alors ce matin, je vous propose que nous regardions la suite de ce passage en regardant au début du ministère de Jésus. Et alors que nous lirons le texte, posons-nous cette question. Qu'est-ce qui change par rapport à Jean-Baptiste avec l'arrivée de Jésus? Qu'est-ce qui change pour les disciples de Jean? Qu'est-ce qui change pour André, un des premiers disciples? Et qu'est-ce qui change pour nous? Je vous propose donc ce matin de lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 24 à 41. Jean 1, versets 24 à 41. Pour ceux qui ouvrent leur Bible, je leur laisse le temps d'ouvrir la Bible. Et sinon, ces versets seront affichés ici. Mais prions. Seigneur, je te demande de nous aider à comprendre ta parole, à comprendre ce que tu veux dire dans nos cœurs. Tu nous as laissé un témoignage de ta venue qui s'appelle la Bible, et elles sont des paroles aussi pour nous aujourd'hui. Ouvre nos cœurs, ouvre mon cœur, Seigneur, parce que c'est toi que nous voulons entendre, Seigneur. C'est toi, Jésus, que nous voulons entendre au travers de ta parole. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis donc. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici là l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons rencontré le Messie, ce qui signifie Christ. » Voici la méditation, le passage que je vous propose ce matin. Donc, pour voir l'entrée du ministère de Jésus, nous dire qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrivée de Jésus. Qu'est-ce qui change pour nous? C'est quoi le problème de fond que les Juifs avaient et que Jésus allait résoudre? Alors, ce récit, le contexte, comme on l'a dit, vient à la suite d'un premier ministère qui est le ministère de Jean-Baptiste. Il baptise dans l'eau des hommes. Vous vous souvenez, ce Jean-Baptiste, il est bizarre, il part dans le désert, il est vêtu avec des vêtements de poils de chameau, il mange du miel, et il dit aux gens, repentez-vous, vous êtes pécheurs, il faut changer vos vies. C'est un message comme quoi, de dire, non, vous devez changer vos vies, vous devez vous repentir, c'est-à-dire vous changer et maintenant ne plus pécher. Et pour ça, je vais vous baptiser d'eau. Et il était assez dur avec eux, il dit, vous êtes mauvais, vous êtes des races de vipères. Et pourtant, les Juifs sont venus en nombre et ils devenaient des disciples de Jean. Tant et si bien que les chefs religieux de l'époque, les Juifs chefs religieux, se demande qui c'est ce Jean-Baptiste, parce qu'il attire beaucoup de disciples qui le suivent. Alors, ils envoient des représentants, ce qu'on voit juste avant, qui lui posent des questions pour savoir qui il est. Et c'est écrit juste avant, on ne va pas le relire, mais lui demande, est-ce que tu n'es pas le prophète Élie, qui était ressuscité, que les Juifs connaissaient bien, qui faisait beaucoup de miracles? Et il pensait que c'était peut-être Élie qui était revenu. Ou n'es-tu pas un nouveau prophète, comme Moïse? Il y a longtemps, Moïse qui les avait sauvés d'Égypte. Ou n'es-tu pas le Messie attendu? Alors, ce qu'il faut comprendre dans l'histoire du peuple juif, c'est que cela fait plus de 400 ans que les Juifs n'ont plus de prophète. Et non plus de prophètes depuis longtemps. C'est ce qu'on a vu entre l'Ancien et le Nouveau Testament, avant ce qui se passe maintenant. Et il s'est développé dans la pensée collective des Juifs qu'il allait venir un libérateur. Hélène nous a parlé d'un libérateur. Il s'est développé qu'il appelait un libérateur qu'on appelle le Messie, qui allait délivrer, mais pour eux, il allait les délivrer de l'oppression du peuple romain, car ils étaient colonisés par les Romains à ce moment-là. Eh bien, il y avait des signes dans la Bible qu'il y aurait un grand prophète qui viendrait, qui les libérerait, et les chefs religieux cherchent si finalement Jean n'est-il pas ce Messie promis. Or, on voit d'abord dans ce texte que Jean déclare formellement qu'il n'est pas le Messie attendu. Il est dit « Je ne suis pas le Messie ». Même s'il a été envoyé par Dieu, on le voit bien, pour baptiser. C'est bien Dieu qui l'a envoyé. Et il se dit, quoi? Il dit, je suis une simple voix qui annonce celui qui doit venir. Il s'efface vraiment, complètement devant celui qui doit venir. Si vous avez vu dans le passage, il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Alors, ça veut dire quoi? Pour nous, ça nous paraît bizarre, mais à l'époque, c'était l'esclave. Les gens, ils avaient des esclaves de ce temps-là. Et quand on rentrait à la maison, c'est l'esclave qui nous déliait les souliers. J'espère que personne fait plus ça, n'a plus ça chez soi, mais c'était ça, c'était l'esclave qui le faisait, c'était le rôle de l'esclave. Eh bien, ce que nous dit Jean-Baptiste là, je ne suis même pas digne d'être l'esclave de Jésus-Christ. Waouh! Et nous? Est-ce que nous sommes dignes d'être l'esclave de Jésus, si Jean ne l'était pas? C'est sans doute là une première leçon de ce passage que nous pouvons prendre, en tout cas pour tous ceux que le Seigneur appelle à son service. Nous sommes une simple voix qui doit s'effacer devant celui qui est venu pour nous. Était-ce à ce moment que l'histoire nous raconte que Jésus vient, il apparaît pour la première fois et en fait, c'est le début de son ministère public que nous voyons, puisqu'il était né dans une crèche, on ne l'a pas vu pendant l'enfance, mais il apparaît là dans le ministère public. Alors qu'est-ce qu'on apprend quand même d'intéressant sur Jésus dans ce passage? Si on le rebalaye rapidement, ben d'abord, c'est ce qu'on peut retenir, c'est ce que fait Jésus. Ce que fait Jésus, c'est qu'il se soumet au baptême de repentance. Il se fait baptiser dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Comme un symptôme. Lui qui n'avait pas de péché, nous le savons maintenant, il n'avait pas, il se fait baptiser pour le pardon des péchés. Alors, quelle est la leçon pour nous? Je vous laisse la tirer. Combien plus nous aussi devrions être obéissants à ce que nous demande le Seigneur, puisque Jésus lui-même se soumet à la repentance. Ensuite, nous apprenons, lorsque Jésus se fait baptiser, que c'est bien lui, celui que Jean est venu annoncer. Et il en reçoit une confirmation par le Saint-Esprit, puisqu'il voit une colombe, et il avait reçu une prophétie, comme quoi celui sur qui descend une colombe, ça sera lui qui vient. C'est lui qui nous baptisera, alors ça ne nous parle peut-être pas trop, on l'a vu dans d'autres prédications, du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il va venir pour nous donner un autre baptême. Et il nous dit qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez, on apprend beaucoup de choses sur cette première découverte. Mais voici la révélation faite à Jean-Baptiste dans ce passage, qui est la révélation la plus forte et qui est faite ici lorsqu'il voit Jésus. Ce qu'il dit, c'est « Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En fait, c'est le premier homme sur terre qui voit Jésus, à qui est révélée la vraie mission. La vraie mission de Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, franchement, pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, ça parle, mais pour nous, pour le commun des mortels, pour nous, dans notre civilisation, ça ne parle pas trop quand même. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais il faut savoir que pour les Juifs, ça leur parlait bien. Parce que ils utilisaient dans leur religion un agneau pour enlever leur péché. On sacrifiait un agneau à différents, à beaucoup de cérémonies, en particulier à la Pâque. Et en fait, il fallait tuer cet agneau et il fallait que ce soit un agneau sans défaut. Donc quand il dit ça, les Juifs comprennent très bien que Jésus doit être l'agneau qui se sacrifie pour enlever nos péchés. Et c'est ça en fait la révélation que sans doute ils ne comprennent pas bien à ce moment-là. Et donc, si la repentance de nos péchés était nécessaire pour préparer les hommes à l'avenue de Jésus, Jean nous donne donc le vrai ministère de Jésus, se sacrifier comme un agneau pour enlever le péché du monde. Et en le relisant, je me suis dit que c'était là la seule, la plus grande révélation de toute la Bible. Le salut des hommes par le sacrifice de Jésus. Parce que le problème fondamental que Jean-Baptiste avait dit aux Juifs, c'est qu'ils étaient pécheurs, qu'il fallait changer de vie. Mais Dieu donne une nouvelle solution. Il dit, c'est le sacrifice de Jésus qui va enlever et ôter tous vos péchés. Jean le comprend. Dieu le lui révèle. Et alors, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a compris ça, Jean? Ben, regardons ce qu'il fait. La première chose qu'il fait, après avoir compris le ministère de Jésus, c'est le verset 35-36 qu'on relit. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. On verra après, il y a André dans ses disciples, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Ce qu'il fait, c'est qu'il explique à ses disciples qui est Jésus. Et les disciples vont le suivre toute la journée. En fait, Jean s'efface devant Jésus. Et les disciples de Jean, on le viendra, seront les premiers disciples de Jésus-Christ. Alors j'aimerais qu'on se focalise maintenant sur André et que nous nous mettions dans le personnage d'André. On est allé voir Jean-Baptiste, on a compris qu'il fallait changer de vie, on se fait baptiser d'eau. Et là, Jean nous dit, mais c'est lui, le Fils de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde, alors qu'on s'était fait baptiser pour le pardon de nos péchés. Mais alors, qui est cet André et que fait-il dans l'histoire? Comme on l'a vu, c'est donc un des disciples de Jean-Baptiste, identifié dans le passage. C'est un pêcheur, originaire de Bethsaïdé et frère d'un certain Simon-Pierre. Et quand André entre en Jean-Baptiste, désigné Jésus comme l'agneau de Dieu, il va suivre, comme je l'ai dit, Jésus toute la journée. Alors, il ne devient pas encore disciple de Jésus, il va suivre, il va voir où il est, il dit « Où est-ce que tu habites ?» Et il est un peu fasciné, il regarde à Jésus. Mais que fait-il après? Que fait-il de cela? Il fait une chose, somme toute banale, qu'on pourrait voir assez facile. Il va voir son frère, son frère Simon-Pierre, avec qui il est sans doute proche, et lui dit « J'ai trouvé le Messie ». Or, c'est André, un des premiers disciples, sinon le premier disciple de Jésus-Christ, n'apparaît pas beaucoup dans la suite des évangiles. Juste deux ou trois fois. En tout cas, c'est lui qui remarque un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons en Jean 6, lorsque Jésus va multiplier les pains et les poissons. Et plus loin, dans les évangiles, on va voir, c'est lui qui va servir d'intermédiaire pour amener des Grecs qui cherchent Jésus en disant « je vous les amène à Jésus ». Il a un rôle discret. Pourtant, sans lui, le ministère de Jésus n'aurait pas pu s'accomplir. Il n'y aurait pas eu de multiplication des pains et des poissons. Et surtout, il n'y aurait pas eu le ministère de l'apôtre Pierre. Sans André, Simon-Pierre ne serait pas devenu cette pierre sur laquelle Christ allait bâtir son Église. Juste après, le verset que nous n'avons pas lu, on voit que Jésus s'adresse à Pierre et lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Là où je voulais attirer votre attention, c'est que ce que fait André est simple, dans un sens. Il va dire à son frère cher qu'il a rencontré Jésus et il a compris que Jésus est le Messie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant et nous ? Finalement, comment ce passage écrit il y a plus de 2000 ans peut être d'actualité? D'abord, comme les Juifs de l'époque, comme le peuple juif, nous, les hommes, sommes dans l'attente d'être libérés d'un oppresseur. Mais notre oppresseur, ce n'est pas l'Empire romain. Notre vrai oppresseur, comme les Juifs finalement, c'est le mal et le péché qui nous environnent. À un moment où que nous soyons sur la terre, nous gémissons. Il est dit, toute la création gémit et l'homme gémit. Qui nous délivrera de la tourmente de ce monde? Qui nous délivrera de la violence, de la haine, de la jalousie, de nos maladies, de nos inquiétudes? Eh bien, le message révélé par Jean-Baptiste, c'est que c'est Jésus qui est vraiment celui qui vient pour nous délivrer du vrai oppresseur. Car ne nous y trompons pas, la mort, la maladie, les haines, les violences, les dérèglements sexuels, les guerres, sont toutes la conséquence de la nature pécheresse de l'homme. Soit le péché du premier homme qui a désobéi à Dieu, et Dieu a puni, soit souvent de nos propres péchés, l'orgueil, la convoitise, la luxure, l'amour de l'argent. Et nous, nous disons qui nous en délivrera. Ce que Jean nous annonce dans ce passage, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Pas d'autre qui doit venir sur cette terre. Qui nous délivrera? Qui nous libérera, dirait Hélène tout à l'heure. Il nous libère de nos chaînes, mais de nos vraies chaînes, de cet oppresseur qui veut conduire l'humanité à sa perte. C'est lui, c'est Jésus. Il a été révélé à Jean-Baptiste, celui que Jésus dira le plus grand des prophètes. C'est lui parce qu'il est l'agneau de Dieu, le sacrifice qui enlève véritablement le péché. Voilà la plus grande nouvelle qui change tout pour nous. Ça change pour notre vie sur terre et pour l'éternité. Jésus seul peut nous donner le vrai pardon pour nos péchés. Bien sûr, nous ne vivrons cette vie parfaite sans le mal, sans le péché, qu'au retour glorieux de Jésus-Christ, à la fin des temps. Comme on en a aperçu dans la Bible en Apocalypse 21:4. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Oui, nous le vivrons dans cette éternité, mais en attendant, dès aujourd'hui, nous pouvons vivre les prémices de cette promesse, une vie de paix, une vie dans l'espérance de cette résurrection et de cette vie sans péché qui nous est, et sans maladie et sans mal qui nous est promise. La question que j'aimerais vous laisser ce matin avec ce passage, et nous, que ferons-nous si nous apprenons que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? Que faisons-nous ou que ferez-vous? D'abord, vous n'avez peut-être pas encore rencontré vraiment ce Jésus, vous ne le connaissez pas ou vous êtes à sa recherche. Dans ce cas, je vous dirais, cherchez-le de tout votre cœur. Simplement. Voici ce que Jésus dit en Matthieu 7:7-8. Jésus dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » La Bible est une longue invitation à venir à Jésus. En lui, vous trouverez le vrai sens et le vrai but de votre vie. Dieu vous conduira sûrement alors vers un de ses serviteurs ou vers une église, comme vous êtes aujourd'hui, si Dieu vous a envoyé ici, avec peut-être aussi vers un frère en qui vous avez confiance, comme André, qui vous parlera d'un Jésus qui peut changer notre vie et nous donner la paix. Et si nous le connaissons déjà et que nous avons compris qui il est vraiment, je dirais, faisons simplement comme le disciple André. Allons trouver un proche qui nous est cher en lui disant « J'ai trouvé le Messie ». À Dieu soit toute la gloire pour sa parole. Amen. Je vous propose de partager justement le pain et le vin dans la continuité. Ça veut dire le pain et le vin, c'est une façon de se souvenir du sacrifice de Jésus, ce sacrifice de l'agneau qui a enlevé notre péché. Et on le fait dans l'église en passant, on passera dans les rangs, le pain et le vin qui sont ici. Ils sont une façon de se rappeler, justement, qui est vraiment Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Alors, on appelle que si vous n'avez pas encore trouvé ce Jésus, si vous ne lui avez pas encore donné votre vie par le Saint et reçu ce Saint-Esprit, nous vous demanderons de laisser passer. Mais Jésus, si vous êtes là ce matin, je peux vous dire que si vous êtes là, c'est qu'il a voulu parler à votre cœur et qu'il vous accueille, il vous tend les bras pour que vous veniez à lui. Et ne vous rejettera pas. Voilà. Je vais donc... Je n'ai pas prévu de personne particulière pour distribuer le pain et le vin. Je vais demander à mon frère Rupert s'il veut bien venir et à Jean-Louis pour distribuer le pain et le vin. Et je ferai lecture d'un des passages où Jésus, non pas où Jésus, où Paul nous rappelle ce qu'est la scène. En 1 Corinthiens 11, 23, 27, puis 29. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je propose de faire circuler le pain. Peut-être tu veux prier pour le pain. Voilà.
Merci pour ce sacrifice que nous ne comprenons certainement pas complètement, mais nous voulons simplement être reconnaissants parce que ce sacrifice vaut pour chacun d'entre nous, chaque jour. Merci Seigneur, parce que nous pouvons encore et te confesser nos insuffisances et recevoir ton pardon, ta grâce, ta vie offerte pour chacun d'entre nous. Que ton sacrifice ne soit pas vain.
Amen. Donc on fait passer le pain. Là, je vais faire le vin. De même, après le repas, il prit la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. » Toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On va pouvoir faire circuler Le vin, je crois que c'est du jus de raisin. Si quelqu'un a à cœur de prier ou même un chant, ben, qu'il peut le faire pendant ce temps.
Chacun t'a donné un don, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, utilise-nous pour qu'on puisse aller encore plus loin avec toi, Seigneur. Bénis chacun de nous, fortifie-nous, honore-nous, Seigneur. Aide-nous à encore avancer, Seigneur. Qu'on puisse vraiment sentir de le Saint-Esprit qui nous guide chaque jour. Qui nous aide, qui nous parle aussi, Seigneur. Parce que tu n'es pas un Dieu silencieux, tu es un Dieu qui parle. Aide-nous à comprendre aussi à ta parole. Aide-nous à t'écouter aussi, Seigneur. Aide-nous à te connaître aussi quand tu parles avec nous. Aide-nous aussi, Seigneur, de toutes les choses que tu as préparées pour nous. On a besoin de toi, sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur.
Amen.
On ne veut rien. On a besoin de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen, Seigneur. J'avais proposé au groupe de louanges de revenir. On va chanter ce chant pour remercier Dieu à l'agneau de Dieu, soit la gloire. Parce qu'il est l'agneau de Dieu, comme on l'a vu. Et maintenant, on sait ce que ça veut dire. Vous levez si vous voulez.
Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Esprit Saint et l'épouse fidèle, vive, viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'épouse bien-aimée. Ne cesse de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec les milliers d'anges entonneront.
Le groupe de maison en bagne chez Régine à 19h. la chaîne de prière. Je vous rappelle que la conversion des âmes dans nos familles, pour la conversion des âmes dans nos familles, et que le verset, c'est Matthieu chapitre 6, verset 6. Hein. Donc c'est mardi, la chaîne de prière. Toujours mardi à 14h30, il y a l'étude biblique à Genelos chez elle. Et à 20h, le groupe de maison à Aubagne chez Christine et Jean-Pierre Autric. Jeudi à 9h30, donc groupe de maison à Gemenoche chez Hélène et Marc. Et à 18h30, la réunion de prière ici à l'église. Vendredi, 7h30, la réunion de prière à l'église. Et à 9h, le groupe de maison à Gemenoche chez Jean-Louis. Samedi matin, 9h30, la réunion de prière dans le local d'Oasis, suivi de la sortie sur la place, la sortie d'évangélisation, qui est ouverte à tous. Donc dimanche prochain à 10h, on aura le culte, et là nous aurons le repas fraternel, puisque ce sera le dernier dimanche du mois. Alors une date un peu lointaine, mais qui est à retenir, parce que c'est une date importante. L'Assemblée Générale Ordinaire de l'Église aura lieu le dimanche 22 mars à 14h30. Elle sera suivie de l'AG de l'ALC, hein, comme chaque année. Il a été décidé de faire le repas fraternel ce dimanche, 22 mars, plutôt que de le faire le dernier dimanche du mois de mars. Voilà. Vous donnez la date, mais on en reparlera bien sûr. Merci beaucoup.
Alors restons dans la joie et je vous invite à ce que nous rechantions ce chant que nous avons pris tout à l'heure ensemble. Je suis dans la joie. Et pendant ce chant, nous ferons passer les offrandes.
Ce soit moi. Bon, je sais pas. Quelqu'un fait passer. Je demande à Michel de faire. Demande à quelqu'un de faire passer. Je crois Michel. Les merveilles de Jésus, mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. De tout cœur, les merveilles de Jésus, mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
Amen.
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 Alors je vais vous. Si vous souhaitez que nous prions avec vous, ou que nous prions pour un sujet particulier, Marc et moi, nous tiendrons là et nous pouvons partager des moments avec vous après le culte. Donc je vais vous laisser avec une parole d'envoi qu'on trouve dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Alors, tu dis pas au revoir. Dimanche.
Je voulais préciser un petit point pratique, parce que ça nous est arrivé à Marc et moi. On a un petit peu galéré, entre guillemets, pour venir, parce que nous n'avions pas compris qu'il y avait un chemin prévu à cet effet pour venir jusque la salle de culte, là où ils ont installé des grands containers d'ordures. C'est tout nouveau, il y a des très beaux containers. C'est à ce niveau des containers, un peu avant, je crois, sous-péchés, la clé des champs, où il y a un chemin propre. Parce que si on a un chemin habituel comme on prenait avant, c'est la galerie. Voilà.
Ah, mais je sais pas où ça.
Je mets mes bottes partout.
Moi aussi.
Voilà, merci.
Merci à vous, merci.
Est-ce que tu pourras m'envoyer la vidéo de Louis-Philippe?
Oui, j'ai filmé plusieurs bouts. Oui,
je t'envoie. Voilà, parce que pour un témoignage pour ma famille,
super.
Là, ouais, je vous montre. On a vu le.
J'ai pris plusieurs fois.
On a vu vraiment le.
Amen. Oui, c'était
ça. Louis-Philippe, voilà. L'action
j'ai
de
pris
Dieu.
Ça, absolument. Donc j'ai filmé des petits, une minute, ouais, deux fois, voilà, une minute. Ça, je l'ai fait. Merci. Ah oui. Alors je. Ah ok, ben je vais le faire dessus dans la foulée en WhatsApp. Je regarde pas. Tu verras, j'ai fait deux trois fois, j'ai pas trop regardé le rush. Martine. Mais Hélène, tu viens avec, on va parler. Viens, on va prier pour Martine. On va prier ensemble.
Venez.
On est plus à l'aise par là.
Vous êtes plus à l'aise, si vous voulez. Ça va, debout, vous voulez vous asseoir, sinon si vous êtes, ça va. Bon. Alors.
Je voudrais vous dire que ces derniers temps, je suis là à trois cultes différents. J'aimerais bien faire un choix.
Amen.
Pour m'aider.
Nous bien faire un choix pour Jésus.
Pour Jésus.
Oui. Alors c'est pour ça que Dieu m'a envoyé ici. Alors du coup on va prier et après si vous voulez on essaie de se voir dans des réunions pour regarder un peu la Bible.
Parce que, voilà, j'ai fait trois coups. Parce que j'ai pas de véhicule.